France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
L'été est notre sujet de réflexion cette semaine, quelques jours avant son début, le 21 juin. Nouvel épisode ce matin, sécheresse, incendie, l'été est-il devenu politique ? Nous avons un peu écorné l'image d'Épinal d'un été uniment délicieux, en évoquant aussi dans cette série la part d'angoisse que la saison estivale porte en elle, perceptible dans beaucoup d'œuvres littéraires et cinématographiques. Cette ambivalence était au cœur de nos deux premiers épisodes. Or, parmi les tourments que peut nous donner l'été, il y a aussi tout ce qui évoque le réchauffement climatique mondial. Beaucoup d'entre nous y pensons certes toute l'année, mais se retrouver quelque part en pleine canicule pendant des vacances estivales rend parfois le sujet obsédant. Devoir se réfugier dans des endroits climatisés presque toute la journée, constater que la mer, de plus en plus chaude, devient une soupe salée qui ne rafraîchit plus guère, tout cela donne soudain une présence effrayante à ces enjeux. Sans parler même des incendies coriaces, meurtriers, qui ponctuent les semaines estivales dans de nombreux pays désormais. L'été, en ce sens, semble devenir de plus en plus politique. Et ce, pour les pays du Nord comme pour ceux du Sud, même si leurs étés respectifs adviennent à des moments différents de l'année. Là encore, outre certains concepts philosophiques, littérature et cinéma vont nous aider à déployer ces interrogations et inquiétudes politiques. Bonjour Catherine Larère.
Bonjour.
Vous êtes professeure émérite de philosophie de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste d'auteurs du XVIIIe siècle comme Montesquieu et Rousseau, mais aussi très au fait des problèmes écologiques contemporains. Vous avez écrit plusieurs ouvrages là-dessus, dont certains avec Raphaël Larère. Le catastrophisme ne vous semble pas la bonne manière de poser les questions politiques. C'est ce que vous expliquez tous les deux dans « Le pire n'est pas certain », essai sur l'aveuglement catastrophiste, publié en 2020 aux éditions Premier Parallèle.
En effet.
Bonjour Yannick Rumpala.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'université Nice Côte d'Azur. Merci à Ici Azur qui permet ce matin ce duplex avec vous à Nice. Vos recherches portent sur la manière dont la science-fiction s'empare de questions politiques, en particulier des tourments écologiques d'aujourd'hui. Nous évoquerons vos deux derniers ouvrages, l'un aux éditions Champvallon, l'autre aux éditions Le Bélial dans la collection Parallax. Enfin, bonjour Pierre Chalère.
Bonjour.
Merci à Ici Provence, cette fois, de nous permettre ce duplex avec vous depuis Aix-en-Provence. Vous êtes un colonel des sapeurs-pompiers, aujourd'hui à la retraite, mais toujours consulté comme expert. En 2004, aux éditions Flammarion, vous aviez publié « Ma saison en enfer », livre qui revenait sur la fameuse canicule de 2003. Eh bien, cette canicule de 2003, c'est une très bonne entrée en matière sur l'été devenu politique. Écoutez ce petit montage de deux extraits sonores de l'époque, l'un de France Inter, l'autre de TF1.
Recherche famille désespérément. À Paris, les cellules de crise mises en place par la mairie dans chaque arrondissement ont commencé à retrouver les familles et les proches des quelques centaines de victimes de la canicule déjà identifiées, mais pas encore réclamées. C'est le centre d'action sociale de la ville de Paris qui est chargé de ce travail macabre mais indispensable. Les morgues sont surchargées. Outre un entrepôt réfrigéré à Rungis, le gouvernement a mis des camions frigorifiques à la disposition des pompes funèbres, 9 camions qui conservent les corps à Ivry-sur-Seine.
Jean-François Mathilly, bonsoir. Certains médecins parlent d'état d'alerte et critiquent le manque d'anticipation des pouvoirs publics. Alors, au ministère de la Santé, avez-vous sous-estimé les conséquences sanitaires de cette canicule, notamment pour les personnes âgées ?
Je ne pense pas du tout qu'il y ait eu de sous-estimation. Pour sous-estimer, il faut être averti. Or, cette canicule n'était pas prévisible. Ce que nous avons fait dès le mois de juin, c'est que nous avons organisé beaucoup mieux que l'an dernier la réception des urgences. Nous avons coordonné au niveau de chacune des régions françaises et le nombre de lits fermés a été bien inférieur cet été à l'an dernier. Ce qui fait qu'en principe, nous étions dans une situation meilleure. Évidemment, la canicule est arrivée, cette vague de chaleur, et alors c'est vrai, le gouvernement est préoccupé et c'est la raison pour laquelle nous avons développé un plan approprié.
Cette canicule de l'été 2003 a fait 15 000 morts entre le 1er et le 20 août. Catherine Larère, Est-ce que cela a été un tournant, notamment dans la manière dont nous regardons les acteurs politiques? Jean-François Mattei, ministre de la Santé, parlait depuis sa résidence de vacances. Il avait l'air, en tout cas, assez loin. Est-ce que c'est là, peut-être, que l'été, soudain, est devenu politique plus qu'avant?
En tout cas, qu'on l'a remarqué. Hein, c'est-à-dire que le Jean-François Mattei, le ministre de la Santé, a effectivement été accusé, non pas d'avoir causé la canicule, bien évidemment, mais de l'avoir pas pris en charge. Et sa réaction est intéressante, parce qu'il dit elle n'était pas prévisible, nous avons pris les mesures appropriées. Alors, elle était prévisible, pas au jour même, mais le changement climatique, on en avait pris acte politiquement et scientifiquement, et ça rentrait dans les choses possibles. Donc ça rentrait dans la responsabilité d'un gouvernement de faire en sorte que les conséquences soient le moins nocives possible. Donc on peut dire, là, il y a vraiment une politisation. Ça devient une question politique sur laquelle on débat, sur laquelle il faut intervenir. Donc oui, ça marque un tournant. Ça ne veut pas dire qu'il y en a eu avant. Du coup, on en a découvert. Mais ça marque vraiment un tournant.
Je crois que vous avez employé, en préparant cette émission avec l'équipe d'Avec Philosophie, une expression très parlante. Il existe un film de Jean Becker, L'été meurtrier, oui, dans lequel ce sont les humains qui commettent des meurtres. L'été et la nature ne sont que des décors. Que l'été soit vraiment meurtrier par lui-même, c'est peut-être en 2003 qu'on s'en est aperçu.
Qu'on se le dit et qu'on se le redit. Et que donc la nature, la chaleur, c'est plus le décor de nos actions qui en sont indépendantes, comme dans le film. C'est un objet qui nous préoccupe directement, qui transforme notre vie, qui a son agentivité propre d'une certaine façon.
Alors, je voulais demander maintenant à Yannick Rumpala, vous êtes toujours avec nous, n'est-ce pas, cet été 2003, pour les Français en tout cas, a excité un imaginaire morbide, vraiment l'idée que le climat va nous tuer. Et est-ce que la science-fiction sur laquelle vous travaillez, c'est un magnifique objet politique, la science-fiction a été inspirée par cet été 2003?
Alors, pas spécialement l'épisode...
J'ai de la reprise de mon invité dans ce que vous m'envoyez.
L'épisode de 2003, c'est un des épisodes où la chaleur...
Ok, merci.
Et où les températures deviennent un objet politique, mais différemment. Les températures étaient déjà un objet politique pour l'hiver. Existaient déjà des dispositifs qui s'enclenchaient automatiquement quand les températures descendaient au-dessous d'un certain seuil. Et là, effectivement, l'épisode va remettre en évidence cette question de la chaleur, de la sécheresse, etc., et qui vont en faire un objet politique différemment. Et le gouvernement de Raffarin de l'époque va enclencher effectivement toute une série de dispositifs qui vont viser à prendre en charge effectivement des populations vulnérables, et vous l'avez dit, hein, surmortalité avec 15 000, enfin dramatique quoi, et donc vont être enclenchés toute une série de dispositifs qui n'existaient pas et qui à cet égard marquaient une forme d'impréparation. Le fait que les maisons de retraite par exemple ne disposaient pas de salles climatisées ou de salles qui soient réservées à l'accueil des personnes âgées dans des situations de ce type. Voilà, et toute une série de dispositifs avec plan canicule etc. vont être mis en place pour effectivement pouvoir mieux gérer cette situation dans les années qui vont suivre. Voilà. Et vont revenir aussi des questions, ou en tout cas vont être plus présentes des questions sur l'agenda, hein, comment les villes s'adaptent. On y reviendra peut-être avec la question des îlots de chaleur dans les villes, voilà, qui vont être, et pour le coup 2003, va être une autre manière de mettre à l'agenda cette question.
J'ai l'impression que dans vos travaux, vous soulignez à quel point la science-fiction, eh bien, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle travaillait, qu'elle s'emparait de ce sujet. Il y a des romans. Alors, bon, moi, j'avoue, il y en a un que j'ai adoré l'année dernière. Je l'ai lu en français et qui est récent. Hein, c'est Le ministère du futur de Kim Stanley Robinson. On va en parler dans cette émission. Mais vous traitez de romans plus anciens en langue anglaise le plus souvent. Par exemple, Make Room de Harry Harrison en 1966. Il y a eu ensuite une adaptation cinématographique où il y a un vrai manque de protéines parce qu'on a complètement pourri les mers. On va manger du plancton transformé. Il y a aussi, expliquez-vous, en 2001, donc juste avant cette grande canicule, Bleu comme une orange de Norman Spinrad, où Paris est inondé. Ça fait longtemps que la science-fiction nous alerte.
Alors, sur le climat, c'est un peu plus récent. Sur les questions écologiques, oui, on pourrait remonter très loin, y compris jusqu'à la fin du 19e. Alors, à nouveau, pas sur le climat, plutôt sur les questions de raréfaction des ressources ou de disparition d'espèces. H.G. Wells, par exemple, dans certaines de ses nouvelles, intègre déjà la question de la rareté du charbon, par exemple, ou la possibilité de rareté du charbon. Les questions écologiques vont plus manifestement et plus lourdement venir dans la fiction à la fin des années 60, à la charnière des années 60-70, hein, et c'est assez logique, hein, c'est aussi le moment où montent les mobilisations écologistes et où l'écologie devient un peu plus politique. Voilà, et on voit fleurir toute une série de romans à l'époque qui mettent en scène, qui commencent à mettre en scène effectivement un peu plus les périls écologiques. Alors, à nouveau, pas tellement sur les questions de climat, hein, qui arrivent plutôt dans les années 80 et les années 90. Dans les années 60-70, c'est plutôt des alertes sur les questions de population, de surpopulation, qu'on voit dans toute une série de ce qu'on peut appeler des démos dystopies, hein, qui mettent en scène effectivement cette population très nombreuse, donc y compris dans Soleil Vert, qu'on voit très bien. Vous parlez de Soleil Vert parce qu'effectivement, il y a un petit moment, le film décrit, hein, effectivement, une ville de New York, en 2022 d'ailleurs, qui est surpeuplée, qui est écrasée par la chaleur, pour une cause qu'on ne sait pas très bien, mais en tout cas, c'est un monde qui est décrit, qui est excessivement pollué, qui est ravagé, il n'y a plus de nourriture, hein, toute la nourriture a quasiment disparu, d'où effectivement le ressort du film avec cette tablette de Soleil Vert, et il y a une petite allusion, effectivement, à cette chaleur excessive, mais qui n'est pas encore connotée, voilà, comme elle le sera aujourd'hui, avec la question du réchauffement climatique.
Donc, Soleil Vert, c'est 1973, réalisé par Richard Fleischer, c'est le film que j'évoquais tout à l'heure comme adaptation du roman de Harry Harrison de 1966, Make Room, Make Room.
Il insiste beaucoup sur cette question de la surpopulation, à commencer par le titre.
En effet. Alors maintenant, évidemment, l'expertise d'un colonel des sapeurs-pompiers, Pierre Chalère, pour vous, l'été 2003, ça a été un point de bascule ?
Oui, en fait, 2003, c'est le premier été où on a constaté qu'un certain nombre de choses étaient en train de changer. Alors, d'une façon très visible et très technique, c'était le nombre d'incendies, donc la facilité avec laquelle la végétation pouvait s'enflammer. C'était les conditions de propagation et notamment la vitesse à laquelle les incendies se déplaçaient. Mmh. Et c'était la longueur de la période pendant laquelle le sud de la France a été soumis aux incendies. C'était pas la première saison estivale difficile en termes d'incendies de forêt. Il y en avait eu beaucoup par le passé, c'était pas une nouveauté. En revanche, du point de vue de l'intensité et du point de vue de la durée, quasiment 4 mois, là, quand on a essayé de tirer les conclusions de ce qui s'était passé, fait le retour d'expérience, comme on dit, en revanche, on a constaté qu'il y avait des choses qui avaient changé. Et avec le recul, maintenant qu'en 2025, on peut jeter un petit regard rétrospectif sur les 20 dernières années, en fait, on a commencé à changer les paramètres avec lesquels on travaille, notamment quand on fait de la simulation et quand on fait de la formation, pour tenir compte de ce qui s'était passé en 2003.
Alors, on se fait un petit rappel, historique, puisque 2003, ça fait 22 ans. À propos des incendies, écoutez cet extrait du 7h30 de France Inter, c'était le 2 septembre 2003.
Bonjour, le feu a tué de nouveau dans le Var. 3 pompiers ont été victimes cette nuit de l'incendie du massif des Morts. Le drame s'est déroulé près de Cogolin. Leur camion s'est retrouvé bloqué au milieu des flammes. Vous entendrez le préfet du Var lancer une mise en garde aux pyromanes, car pour lui, les incendies sont forcément d'origine criminelle. 2 d'entre eux étaient des pompiers volontaires. 1 seul était un pompier professionnel. C'était des soldats du feu expérimentés, selon leurs camarades. Ils avaient tous les 3 une quarantaine d'années. Ils étaient mariés, pères de famille. Ils sont morts hier soir près de Cogolin, dans le Var. Leur camion était encerclé par les flammes. Ils n'ont pu se dégager. Déjà le 28 juillet dernier, 4 personnes avaient péri elles aussi dans les flammes, dans ce même massif des Morts. Le feu a parcouru pendant la nuit 6 km, soit autant que toute la journée d'hier. Plus de 4000 hectares ont brûlé. Plusieurs foyers d'incendie subsiste aussi en Corse. Les vents violents, là encore, compliquent la tâche des pompiers. Nicolas Sarkozy a dressé un premier bilan de l'été sur l'ensemble de la France. 54 000 hectares déjà sont partis en fumée. C'est le bilan le plus lourd depuis 15 ans.
Alors, je suis très contente de parler à un colonel des sapeurs-pompiers, Pierre Chalère, parce que il y a des questions pour moi qui restent très obscures. On dit quand même souvent que le déclenchement des incendies, même s'il y a des conditions favorables, le déclenchement même est souvent d'origine humaine et même peut-être toujours et criminel, c'est-à-dire il y a un pyromane. J'ai aussi l'impression que d'autres approches existent. Alors d'un point de vue vraiment technique, est-ce qu'un feu peut démarrer sans une cigarette pour l'allumer, mais vraiment uniquement, si j'ose dire, par la nature, par la sécheresse, ou faut-il un déclenchement par un accident humain, une cigarette qui traîne, voire un acte criminel ?
Écoutez, jusqu'à maintenant, je n'ai pas connaissance qu'on ait constaté que le feu pouvait partir tout seul, spontanément, uniquement par une action quasi magique de la chaleur, de l'ensoleillement et éventuellement du vent. Ce qu'on sait maintenant, parce que c'est un travail de longue haleine d'analyse des causes d'incendie, c'est que le facteur humain est le facteur déterminant dans la plupart des cas. Mais quand je dis que le facteur humain est un facteur déterminant pour la cause de l'incendie, ça ne veut pas dire que la totalité des incendies et que la totalité des surfaces détruites sont le fait d'actes de malveillance ou d'actes causés par des personnes souffrant d'une pathologie. Il y a une nuance importante entre le fait que on constate que c'est l'activité humaine souvent qui est à l'origine des incendies de forêt, mais c'est souvent l'activité humaine accidentelle.
Donc c'est quoi, c'est la cigarette ou d'autres choses?
Il y a
un feu, un barbecue, qu'il ne faudrait pas faire en forêt, mais qu'on a fait quand même. Comment?
Un miroir.
Ah, un miroir, dit Catherine Larère, par terre. Vous êtes d'accord?
Ce sont des conditions extrêmement difficiles à reproduire, en tout cas, et à réaliser pour le coup du miroir ou de la loupe. En revanche, d'un point de vue accidentel, on sait que les travaux agricoles, les travaux de jardinage, les travaux forestiers et la question des mégots de cigarettes sont des causes, par contre, qui sont identifiées quand on a des conditions comme celle de 2003 où la vulnérabilité de la végétation, on parle de disponibilité au feu, du combustible, fait que oui, un mégot de cigarette jeté par une fenêtre de voiture peut permettre le déclenchement. Mais je crois que ce qu'il faut retenir d'une façon générale, c'est que la cause humaine est la cause dominante, que dans cette cause humaine, les causes accidentelles de négligence, d'imprudence, celles que vous avez citées, hein, les barbecues, les travaux en forêt ou les travaux de jardin, les petits feux d'entretien mal éteints, ont une part importante, et que le spectre et le fantôme du pyromane ou de l'incendiaire, parce que je crois qu'il faut faire la nuance entre les deux.
Quelle est la différence ?
Eh bien, un pyromane souffre d'une pathologie qui lui donne une compulsion à allumer le feu irrépressible un petit peu dans n'importe quelle condition. C'est cette compulsion qui n'est pas gérable par l'intéressé. Quand on parle d'incendiaire, on peut être sur des mises à feu qui sont volontaires, pour plusieurs raisons, la volonté de nuire, la volonté de détruire, règlement de compte, enfin il y a plusieurs typologies possibles, mais on est là dans un acte délibéré.
Et
c'est un acte réfléchi.
Oui, oui. Mais si la cause, en tout cas du déclenchement, est humaine, que ce soit un accident, une pyromanie ou des intentions malveillantes, ça veut dire qu'on peut agir dessus quand même. S'il y avait une attention extrême, une éducation des humains à ne pas laisser traîner des choses dangereuses. On pourrait même y aller carrément, on va parler d'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, il était pour des mesures un peu coercitives. Si on interdisait certains espaces de forêt à la promenade humaine, vous diriez, vous, colonel des sapeurs-pompiers Pierre Chalère, qu'il n'y aurait plus de feu, plus d'incendie?
Non, je me garderai une réponse aussi tranchée.
Pourquoi c'est logique?
En revanche, dans ce que vous avez dit, il y a un truc très intéressant, c'est que la bonne nouvelle, c'est que si l'origine des incendies est majoritairement humaine, ça veut en effet dire qu'on peut agir par des mesures de sensibilisation, d'éducation, d'information, éventuellement de répression. Ça veut dire qu'il y a une action possible. Si on n'était que sur des causes naturelles comme la foudre, qui existe, hein, mais qui, en termes de nombre et de dégâts, sont un peu plus légères que les causes humaines. Si on était que sur des causes naturelles, les choses seraient compliquées parce qu'on aurait un paramètre aléatoire de plus. Quand il s'agit de comportement humain, ça veut dire qu'on doit pouvoir arriver à l'infléchir. En revanche, ce sont des actions de long terme dont on a du mal à mesurer les effets et l'efficacité. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas y travailler.
Bien sûr. Catherine Larère, vous vous intéressez à ces questions. Le fait que ce soit, il y ait toujours une cause humaine, ça fait réfléchir quand même. On pourrait peut-être agir plus nettement pour empêcher ces feux. C'est terrible de se dire que des hectares et des hectares brûlent. On parle du réchauffement climatique, mais en vérité, s'il n'y avait pas eu un déclenchement par une cause humaine, il n'y aurait pas eu ce feu.
Je dirais que si vous jetez un mégot de cigarette dans un lac, ça fera rien. Si vous le jetez sur un tas de paille qui va s'enflammer à la moindre étincelle, ça va faire quelque chose. Donc moi, je pense, on ne peut pas contrôler les humains complètement. Hein, on vient de vous le dire, il y a des quantités de gestes accidentels, imprévisibles, qui ce qu'on peut contrôler, ce dont il faudrait sans doute parler, c'est, appelons ça des manœuvres de précaution, c'est-à-dire faire en sorte que le feu, s'il se déclenche, se propage le moins possible. Ça suppose, par exemple, qu'on débroussaille les forêts.
Alors,
les forêts non entretenues. Oui. Encombré
de broussailles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il y a un petit
débat.
C'est
une obligation pour les propriétaires de pas laisser leur propriété encombrée de feuilles sèches non ramassées et surtout les broussailles, parce que le feu il se déplace avec une rapidité d'autant plus grande qu'il trouve du matériau. Donc je pense que on peut certainement faire quelque chose. Je pense pas qu'on puisse contrôler tous les humains pour qu'à aucun moment, aucun accident ne soit possible. Et puis, on vient de vous le dire, il y a des pathologies. C'est très difficile à contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est le respect des choses qui sont d'ailleurs déjà prévues par des lois et des règlements, c'est-à-dire de faire en sorte que, si les feux se déclenchent, ils soient le plus possible maîtrisables.
En 2022, la philosophe Joëlle Zask a fait paraître aux éditions Premier Parallèle un livre intitulé « Quand la forêt brûle ». Et elle précise qu'au sein des écologistes, il y a aussi un débat à propos du débroussaillage. Certains ne souhaitent pas que dans des espaces tout à fait naturels où l'homme n'intervient pas, on aille débroussailler. Vous êtes une des meilleures spécialistes, Catherine Larère, des débats au sein de la mouvance écologique. Est-ce que vous confirmez cela et pouvez-vous nous expliquer?
Alors, on pourrait même aller plus loin et dire que le feu est une perturbation nécessaire pour que certains végétaux se reproduisent. Il y a, en particulier dans la forêt méditerranéenne, un certain nombre de végétaux qui ne peuvent se reproduire qu'après un feu. Ça fait partie, oui, ça fait partie du cycle de la végétation. Et donc, si nous n'étions absolument pas, les humains n'étaient pas présents dans ces environnements, on peut, du point de vue de l'équilibre écologique, des bons cycles de végétation et de reproduction, trouver à montrer l'importance des perturbations par le feu. Il est bien évident que dès qu'il y a des humains, on ne va pas laisser ça se faire. Hein. Donc la défense des feux, qui a pu être faite par des écologistes dans les grands et immenses parcs naturels américains ou australiens, n'a de sens que s'il ne peut pas y avoir de victimes humaines. Mais, je vous dis, les écologues montrent que le feu peut être une perturbation qui rentre dans des cycles de végétation.
Bon, donc ça, c'est quand même très intéressant, parce que ça complique un peu l'affaire.
L'affaire. Mais je vous dis, là, il est évident que la politique d'un parc, hein, va être de faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de victimes humaines. Et même si vous prenez, par exemple, le parc national de Porquerolles, vous avez un tout petit îlot, qui est pas du tout habité, qui est loin, dans la mer suffisamment loin, pour qu'on pense que c'est bon de laisser la végétation se développer naturellement. Donc, s'il y a un feu, s'il y a un feu apporté par la foudre, ne pas intervenir. En fait, on intervient parce que le danger est trop grand si ça atteint les humains. Mais c'est pour ça que le feu est à bannir absolument. Il, du point de vue des cycles écologiques, il peut jouer un rôle favorable.
Ça suppose quelque chose que vous aviez quand même un peu nié, Pierre Chalère, que dans certaines conditions, la forêt s'allume toute seule, si je puis dire. Et là, ce serait positif. Votre métier est très compliqué parce que beaucoup de gens se mêlent de cette question de comment ça se déclenche, un feu. Et certains écologistes même invoquent des feux naturels aux effets naturellement bons.
Alors, je vous remercie de remarquer que ce métier est difficile. c'est sympa, mais bon, c'est vrai qu'il y a une certaine subtilité parce que, bien sûr, tout ce que vient de dire Catherine Larrière est tout à fait intéressant et on peut considérer que, d'un point de vue global, un incendie qui interviendrait en milieu naturel, qui ait été provoqué par des causes naturelles, demande à pouvoir exister et se développer, étant entendu qu'on est dans un cycle qui n'est pas perturbé par l'action humaine. La difficulté, vous l'avez remarqué tout à l'heure, c'est quand on arrive au contact des zones habitées et où, alors, le cas d'incendie naturel, je ne le nie pas du tout, Géraldine, mais il est quand même statistiquement assez rare. Mais la difficulté arrive quand on est au contact des zones habitées et des zones vulnérables. Et en fin de compte, c'est pas tellement un problème à ce moment-là d'incendie de forêt, c'est un problème de protection des personnes d'abord et des biens ensuite, qui fait que dans la hiérarchie des priorités, il va être d'abord demandé à protéger les personnes et protéger les biens, et que ce choix peut être éventuellement fait au détriment d'une action de lutte et d'extinction. Dans les faits, ceci va ensemble. C'est un ensemble et on ne sépare pas les choses. On est sur des actions de lutte et de protection qui sont globales. Mais bien évidemment, le cas que Catherine Larrère évoquait, qui est celui du parc national de Porquerolles, avec la possibilité de laisser la végétation vivre sa vie pendant un certain nombre de décennies, voire de siècles, et éventuellement être victime d'un incendie apporté par la foudre, parce que c'est la plus importante cause d'incendie naturel. Cette question-là se pose. Et bien sûr, quand on est sur la presqu'île de Saint-Tropez, au milieu des campings et des habitations légères, elle se pose différemment. Il y a d'abord une priorité de protection des personnes.
Alors, feu est un sujet que vous, évidemment, vous le travaillez de par votre métier, mais vous avez une vraie réflexion qui sollicite aussi des auteurs, des philosophes, en particulier Gaston Bachelard, qui est l'auteur en 1938 d'une psychanalyse du feu. Je crois, c'est ce que vous avez dit à l'équipe d'Avec Philosophie en amont de cette émission, que c'est encore une complication de plus. Le feu intrigue, le feu fascine, le feu sidère. Ça fait partie des choses qu'il faut savoir quand on est pompier. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ?
Quand, au bout de quelques années et de quelques décennies de participation à la lutte contre les feux de forêt, je me suis posé la question de savoir pourquoi, en termes notamment de communication publique, pourquoi on avait autant de difficultés à essayer de rester près d'un cœur de réflexion factuel, et pourquoi on avait tendance à voir et à entendre des réactions qui étaient exagérées. Bien sûr, ça peut se comprendre compte tenu de la peur que peut représenter un incendie majeur pour des personnes qui y sont confrontées pour la première fois. Mais pourquoi on avait du mal, spécialement dans les années comme 2003, après quelques semaines, à essayer d'avoir une communication apaisée, non pas quand il y a des pertes en vie humaine, là il est très difficile et puis il est même pas question de chercher l'apaisement, mais sur le fait. Et en lisant un peu, parce que j'ai fait ce métier, mais en fait, si j'avais exercé un métier honnête, j'aurais été prof de lettres.
Le métier de pompier est plus qu'honnête. Hein.
Oui. je lis un petit peu, et quand j'ai trouvé l'introduction à la psychanalyse du feu de Bachelard, qui disait qu'en fait, il était très difficile d'avoir une réflexion objective et sereine sur le feu, ça a éclairé notamment toutes les réactions qu'on peut avoir en cours d'incendie, quand on fait des commentaires. Et un petit peu pour faire un parallèle osé, de même qu'il y a 65 millions de sélectionneurs pour l'équipe de France de foot, il y a 65 millions de commentateurs sur les incendies l'été. Et on a quelques commentaires, on a beaucoup de commentaires sensés.
Qui disent quoi, quand c'est purificateur, le feu? Qu'est-ce qu'ils disent, ces commentaires un peu favorables ou fascinés par le feu? Qu'est-ce qu'ils disent?
Alors, il y a vraiment deux sortes de commentaires. Il y a le commentaire qui majore un petit peu l'effet du feu et qui majore l'apparente facilité que donne le fait d'imaginer lutter contre le feu. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de canadairs? Pourquoi est-ce qu'on les a mis là et qu'on les a pas mis ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, alors qu'on est en pleine canicule, pris des mesures préventives? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis l'armée dans les forêts? Je ne sais quelle. Et puis après, il y a une communication qui est un petit peu plus subtile, qui consiste à admettre qu'on se trouve face à un phénomène naturel d'une puissance et d'une intensité particulière, et qu'il faut admettre qu'il y a certains jours où on arrive aux limites de l'exercice. Ça ne veut pas dire qu'on est dépassé ou qu'on baisse les bras, ça veut dire simplement que le ratio entre les moyens qui seraient nécessaires pour éteindre un incendie rapidement et les moyens qui sont disponibles pour le faire sont, pendant un certain nombre d'heures, déséquilibrés. Et que l'action publique, elle travaille à rétablir cet équilibre de façon à ce qu'on puisse ramener l'incendie dans sa dimension minimale.
Mais est-ce qu'on devient pompier parce qu'on a, d'une certaine façon, une fascination pour le feu ?
Écoutez, c'est pas impossible. Moi, j'en arrive maintenant... je suis au début de la deuxième mi-temps de ma vie, donc je jette un coup d'œil rétrospectif sur ce qui a constitué l'essentiel de ma vie professionnelle pendant près d'un demi-siècle. Il n'est pas impossible. Hein, pourquoi, après tout, serais-je indemne de ce que Bachelard décrit ? Il n'y a pas de raison. Il y a peut-être autre chose aussi, dans les innombrables raisons qui font qu'on choisit cette curieuse activité. Il y a le fait, il me semble en tout cas, il y a le fait de vouloir se confronter à quelque chose d'extrêmement fort, un espèce de défi épique, qui fait qu'on veut se mettre à l'épreuve et se confronter à quelque chose de naturel et d'extrêmement puissant.
Je précise à nos auditeurs que nous parlons de l'été toute cette semaine avec philosophie, en sollicitant des auteurs divers pour penser les fantasmes, les représentations autour de l'été, mais aussi évidemment ces réalités diverses. Ce matin, nous parlons des aspects de plus en plus politiques de l'été en raison des incendies, des sécheresses et du réchauffement climatique. Nous allons aborder maintenant, si vous le voulez bien, mes trois invités, Pierre Chalère, Catherine Larère et Yannick Rumpala, les écritures fictionnelles, qui plus récentes. Alors, Yannick Rumpala, vous en êtes le spécialiste. J'ai découvert, pour ma part, il y a quelques années, c'était en anglais, j'attendais la traduction française pour le lire, et je l'ai lu en plein été 2024. Je parle du roman Le ministère du futur, écrit par Kim Stanley Robinson en 2020. Et c'est traduit de l'anglais par Claude Mamier, publié en français aux éditions Bragelonne. Dans ce livre, il va y avoir un véritable cataclysme, une prise de conscience politique terrible, parce qu'une canicule abominable va produire des millions de morts en Inde. Il y a des scènes effrayantes au début du roman où les gens meurent les uns à côté des autres dans un lac qui est de plus en plus chaud. Partout, c'est très très chaud, c'est terrible. Je voudrais qu'on en parle de ce roman. Qu'est-ce qu'il va déclencher dans l'intrigue du roman, ce moment effrayant du début? Écoutez l'extrait du début du roman. C'est avant que tout le monde meure, mais il s'agit d'un personnage qui sent que le pire est proche. Écoutez.
Il faisait de plus en plus chaud. Frank May quitta son petit matelas et s'avança jusqu'à la fenêtre. Murs et tuiles ocre, couleur de l'argile locale. Immeuble carré, comme celui où il se trouvait, toit terrasse occupé par des résidents qui y dormaient la nuit pour échapper à la chaleur des appartements. À présent, certains d'entre eux regardaient vers l'est par-dessus les garde-corps. Ciel du même ocre que les immeubles, teinté de blanc là où le soleil ne tarderait pas à apparaître. Frank n'aurait pas accepté le poste s'il avait su. Cette ville était jumelée à la sienne, mais ce n'était pas la seule, de même qu'il existait d'autres structures humanitaires. Il aurait pu travailler en Alaska, sans que sa propre sueur lui pique les yeux. Il était déjà trempé, son short aussi, le matelas aussi, là où il avait essayé de dormir. Il crevait de soif, mais la bouteille près du lit était vide. Toute la ville résonnait du bruit des climatiseurs qui bourdonnaient comme des moustiques géants. Puis le soleil surgit sur l'horizon, avec l'éclat d'une bombe atomique, ce qu'il était par définition. Le contre-jour assombrit champs et bâtiments dans cette direction, tandis que la tache lumineuse s'élargissait, devenait un croissant aveuglant. La chaleur qui en émanait gifla Franck. Les radiations solaires lui brûlaient la peau. Ses yeux baignés de larmes ne voyaient plus grand-chose. Tout était ocre ou beige ou d'un blanc insoutenable. Une ville ordinaire de l'Uttar Pradesh à 6 heures du matin. Il consulta son téléphone, 38 degrés Celsius. Ce qui faisait en Fahrenheit, il pianota, 103 degrés. Humidité aux alentours de 35%. C'était cette conjonction le vrai problème. Quelques années auparavant, il se serait agi de l'une des plus hautes températures humides jamais enregistrées. Non pas d'un simple mercredi matin.
Daphné Leblond de France Culture lisait cet extrait du roman « Le ministère du futur », roman de Kim Stanley Robinson qui est sorti en 2020 en anglais et qui est ici traduit. Et bon, Yannick Rumpala, qu'est-ce qu'il y a de fort dans ce roman? Pourquoi ce début est marquant? Est-ce que c'est un roman que vous trouvez génial ou avec plus tard dans le développement certaines facilité ou faiblesse? Est-ce que c'est lui-même un électrochoc? Il raconte un électrochoc, je veux dire, de nature morale. Tout le monde va se mobiliser. Est-ce que ce roman va mobiliser, peut mobiliser beaucoup de gens? Voilà mes questions.
Alors, c'est un roman majeur, assurément. Kim Stanley Robinson, c'est un grand auteur américain qui n'en est pas à son coup d'essai hein, sur les questions climatiques. Il avait déjà sorti une trilogie, Science in the Capital, qui rassemblait trois romans, Les 40 signes de la pluie, 50 degrés au-dessous de zéro et 60 jours et après, qui mettait en scène déjà une forme de réflexion sur la conjonction entre science et politique pour traiter ces questions climatiques. Donc il les avait déjà travaillées et le ministère du futur reprend effectivement ces questions. Alors, petite parenthèse, hein, ce roman peut être inclus dans un sous-genre qui a fait florès hein, depuis, même un petit peu avant, qui s'appelle la climate fiction, dont on reparlera éventuellement. Et en tout cas, le roman a été majeur. Hein. Il a été lu et même recommandé hein, par des gens comme Barack Obama, même par des gens comme Bill Gates, hein, qui en ont fait, pas leur livre de chevet, mais en tout cas un ouvrage éminemment recommandable. Et en effet, le roman commence par cet épisode de canicule qui fait 20 millions de morts. Et l'extrait insiste bien, hein, c'est pas seulement la chaleur, hein, c'est aussi la conjonction avec un degré d'hygrométrie qui est très élevé et qui crée cette surmortalité. Mmh. Et cet épisode de canicule va en effet générer un espèce d'électrochoc à l'échelle mondiale. Et jusqu'à susciter en effet la création d'une agence, ce fameux ministère du futur, qui va en quelque sorte prendre en charge à l'échelle mondiale toute une série d'expérimentations, d'initiatives, de dispositifs, et y compris parfois des actions presque terroristes. Hein. Et le roman décrit par exemple comme action possible le fait de s'attaquer aux jets de riches pour les abattre en vol et inciter à des formes de réaction. Donc toute une série de dispositifs vont être mis en place et c'est tout l'intérêt du roman, c'est de proposer vraiment presque la palette intégrale des dispositifs qui sont imaginables pour prendre en charge la question climatique.
Dont des questions techniques comme réparer le climat concrètement. Exactement. Est-ce que quelque chose de cette sorte est possible aujourd'hui?
Dans le roman, ce qui va être mis en scène, c'est l'Inde ayant tellement été touchée qu'elle va décider de prendre une initiative de son côté en mettant en branle une initiative de géo-ingénierie. Donc de manière totalement autonome et contre l'avis d'ailleurs d'autres grandes puissances mondiales. Et donc l'Inde va dire, moi j'ai été touché, j'estime que c'est de ma responsabilité d'agir, et donc je prends l'initiative comme État de mettre en place cette initiative de géo-ingénierie. Alors, le roman a ses défauts, hein, il est parfois très didactique, voire excessivement didactique. Il mélange à la fois des aspects narratifs et puis des passages qui sont un petit peu comme des extraits de discours ou des extraits de documents administratifs. Mmh. Voilà. Et qui montrent effectivement la puissance de documentation de Kim Stanley Robinson. Et on trouve vraiment la palette hein, des options envisageables. Il va même jusqu'à imaginer une monnaie qu'il appelle le Carbon Coin, qui serait un dispositif financier qui permettrait effectivement de financer la lutte collective à l'échelle planétaire contre le réchauffement climatique. Voilà. Mais je ne veux pas être trop long pour laisser les...
Catherine Larère, la géo-ingénierie, c'est comme ça qu'on dit ? Elle est possible ? Elle est... Alors, il y a des romanciers qui l'imaginent, mais au fond, ils se fondent sur des choses qui existent. Pourquoi on ne parle pas plus de ça ?
Ben, elle est possible, elle est abordée dans les rapports du GIEC. Alors, par géo-ingénierie, si on entend par géo-ingénierie l'ensemble des interventions techniques pour diminuer les effets de l'accumulation des gaz à effet de serre, ça prend une très large palette. Ce qu'on entend plus souvent par géo-ingénierie, c'est un type d'action au niveau planétaire. Hein, où par exemple, on enverrait dans l'atmosphère des particules de soufre pour renvoyer les rayons du soleil. Alors, le gros problème de la géo-ingénierie, c'est que comme toute action technique, elle a des conséquences. Et ces conséquences risquent d'être pires que ce qu'elle évite.
C'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire, si on, par exemple, cette histoire de particules de soufre.
Qu'on envoie
dans l'air. Qui réverbèrent
les rayons du soleil.
Les rayons du soleil. Donc, il y a
moins. Les éloigne de la Terre, c'est ça ?
Ça fera à peu près l'effet que fait une très grosse éruption volcanique, qui effectivement fait baisser la température du fait du soufre émis. Ben, ça aurait pour conséquence, entre autres choses, qu'on ne pourrait plus s'arrêter de le faire. Dès qu'on s'arrêterait de le faire, l'augmentation de la température reprendrait en pire.
C'est comme un traitement chronique pour des maladies chroniques, pourquoi
pas ? Il y a des traitements chroniques pour des maladies chroniques où les médicaments ont plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Et
là, pourquoi c'est dangereux de le faire tout le temps ?
Parce que par ailleurs... il pourrait y avoir quantité d'effets négatifs. On a une sorte d'expérience involontaire, mais qui peut servir de référence, qui est l'explosion d'un volcan en Indonésie au début du 19e siècle. Mmh. Il y a un livre qui en a été tiré qui s'appelle Une année sans été, justement. C'était juste l'inverse. Et ben, ce qu'on a montré, d'abord, il y a eu une quantité de morts autour de l'éruption volcanique, et qu'ensuite, ben, pendant un an, les nuages qu'il y a eu dans le ciel ont fait qu'il n'y a eu aucun, pour ainsi dire, pas d'été. La température, non seulement la température a baissé, mais un certain nombre de récoltes n'ont pas pu être faites. Il y a eu des inondations. Cette année sans été, c'est l'année où la femme de Shelley écrit Frankenstein. Et elle écrit Frankenstein, en fait, parce qu'elle est en Suisse, qu'elle peut pas aller se promener parce que le temps est absolument pourri, et qu'il y a eu une inondation extrêmement forte. Et tout ça, on le montre maintenant, est une des conséquences de l'éruption de ce volcan. Mmh. Donc, on est... Jean-Pierre Dupuy dirait, on joue les apprentis sorciers. C'est-à-dire, on fait des actions intentionnellement pour détourner les conséquences du changement climatique, qui ont des répercussions beaucoup plus graves que ce qu'elles sont censées éviter. Donc, il vaut mieux...
C'est pas une solution.
C'est vraiment pas une solution. J'ajoute, puisqu'on parle de politique,
oui,
que ce qu'il y a de grave aussi dans ces actions, bon, j'ai pris parce que c'est la plus connue, hein, d'action de géo-ingénierie, c'est que il y a pas besoin d'être un État pour le faire. Hein. Quelqu'un comme Elon Musk ou peut décider de le faire parce qu'il trouve que c'est bien.
Oui.
Et si on le surveille pas sans arrêt, on ne pourra pas l'empêcher. Donc voilà une action qui peut avoir des conséquences très graves et qui a pas besoin d'un accord politique. Pour y arriver, c'est quand même embêtant.
Alors, à propos justement de l'État, nous avons... Il y a un petit débat. Si l'État est politique, la question est de savoir ce que nous demandons, plus ou moins implicitement, à l'État singulièrement dans les périodes estivales. Voici un survivaliste, vous allez l'entendre, il s'agit de Piero San Giorgio. Au passage, je veux bien qu'on m'explique ce que sont les survivalistes. Il a été interrogé dans la série documentaire LSD de France Culture le 17 août 2022 et lui, il est très inquiet de la perspective que nous allions chercher des solutions trop vite. En demandant à l'État d'intervenir, il craint la dépendance envers l'État. Écoutez.
Ma stratégie personnelle, c'est cette idée de se mettre dans un endroit où on peut créer son autonomie par notamment le potager, la source d'eau, le puits, le fait de cultiver, d'élever peut-être des animaux, etc. Pour d'autres, ça va être la vie dans la forêt, par exemple. Alors ça, c'est pas ma stratégie personnelle, parce qu'avec une famille, 4 enfants, eh bien, c'est pas forcément la stratégie la plus confortable. Mais il y a plusieurs écoles dans le survivalisme à travers, effectivement, le monde. Ce sont des vieilles traditions d'être indépendant, d'être autonome. L'État, c'est pour moi plus une nuisance et un problème qu'une solution. Parce que l'État, c'est la dépendance, par définition. C'est être dépendant des allocations, être dépendant des retraites, être dépendant de cotisations, d'un système de santé publique, etc. Alors parfois, c'est pratique. Mais voilà. En revanche, l'État nous endette pour des générations et des générations. L'objectif, c'est ensuite de reconstruire une civilisation. Ce n'est pas juste de vivre avec ses 3 boîtes de conserve et son potager dans son coin, parce que l'être humain est un animal à la fois grégaire, mais enfin un animal de meute. Il n'est pas un individu unique et isolé.
Qu'est-ce que c'est que ce groupe des survivalistes, Catherine Larère ?
Alors, on le voit, ce sont des réactions hyper individuelles, de repli personnel sur des bases préparées à l'avance, si je puis dire, et qui donc refusent toute vision collective. Il le dit bien, l'État, on en est dépendant. Oui, on en a besoin, et on a besoin de systèmes de santé, on a besoin de police, on a besoin d'armée, et ça, on ne peut pas le faire tout seul dans son coin, on est trop nombreux pour cela. Et donc le problème, ce n'est pas de refuser l'État, c'est de contrôler l'État, c'est de faire en sorte...
Mais eux, les survivalistes, ce sont des gens d'extrême droite, on les catégorise comme
Alors,
ça
Alors, on les catégorise d'extrême droite, oui, ils le sont, mais...
En quel sens?
En le
libertarien, parce que libertarien, ça ne veut pas forcément dire d'extrême droite, ça dépend.
On s'en rend compte de plus en plus, ouais, que libertarien.
Mais c'est plutôt cette sensibilité-là.
C'est une sensibilité qui suppose qu'il n'y a de rapport possible entre les humains que, sauf à tout petit groupe, que d'extrême violence. Qui refuse toute conception de la, toute, alors que c'est la vérité. Il y a de la violence et de l'agressivité, il y a aussi de la coopération, de la bienveillance. C'est pour ça que quelqu'un comme Pablo Servigne, qui a repris un peu les thèses survivalistes, défend en même temps les thèses du naturaliste et en même temps politique et anarchiste Kropotkin, mm-hmm, en disant, mais dans les situations extrêmes, se développent des formes d'entraide. Il n'y a pas que l'opposition entre les humains. Il y a des formes d'entraide et on les voit se développer dans des situations extrêmes, genre catastrophe. Donc ça permet à Pablo Servigne, qui d'une certaine façon reprend des hypothèses survivalistes, l'idée il faut se trouver un endroit où on pourra se protéger, mais justement, et en s'appuyant sur un anarchiste comme Kropotkin, de s'opposer au survivalisme d'extrême droite, qui lui prône l'armement universel, hein, si on veut. Non, il le dit pas là, mais je sais pas si lui le dit, mais d'autres le disent. Si on se replie sur des petits endroits, des petites niches, ben, il va falloir se défendre contre ceux qui vont vouloir vous prendre votre niche.
Donc... Et vous, Catherine Larère, vous dites parfaitement à quel point nos problèmes écologiques sont mondiaux. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui préconisent, peut-être en faites-vous partie, des solutions locales, qu'elles soient locales, sous-étatiques, si je puis dire, au niveau vraiment local, plus petit que l'État-nation, ou que ce soit au niveau étatique même, ça donne l'impression que ça ne sert à rien. Là, je ne suis pas sûre de bien comprendre la revendication du local ou du national face à un danger planétaire.
Premièrement, ce n'est pas une revendication, c'est un fait. Alors, je reviens, on a absolument besoin du GIEC, de le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat. On a absolument besoin d'expertise globale. C'est vrai que sans ces scientifiques, on saurait rien. Hein, on saurait rien sur le changement climatique. Le problème, c'est que tant qu'on en reste au niveau global, on est impuissant. Il n'y a pas de gouvernement mondial. Et moi, je suis suffisamment élève de Montesquieu et de Kant pour dire que c'est pas la bonne chose. Hein, ça serait presque nécessairement despotique. Et donc, il faut qu'il y ait des relais locaux de ces diagnostics globaux. Et que, par ailleurs, ce qu'on dit jamais, mais les gens agissent. Et ils agissent sur le plan local. Donc, il faut aussi les aider et avoir des relais d'organisation au niveau local, en tenant compte, et je le répète, c'est peut-être souhaitable hein, qu'on se passe d'État,
oui.
Mais dans la situation actuelle, on ne peut pas.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement plus d'un million d'années, et toujours en été. Y'a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie surprend plus d'un million d'années, et toujours en été.
Nino Ferrer, Le Sud, 1975, cette chanson de Nino Ferrer nous paraît tellement datée. On dirait Le Sud, le temps dure longtemps, la vie sûrement, plus d'un million d'années et toujours en été. Yannick Rumpala est-il encore avec nous ? Je ne suis pas sûre. Donc Catherine Larère, un petit commentaire sur ces fantasmes tellement joyeux qui ont maintenant plus de 50 ans.
Oui, je voyais un article dans Le Monde ce matin qui disait que beaucoup de touristes allaient en Pologne pour passer un été frais au bord de la mer. Donc on a complètement changé, c'est sûr.
On a complètement changé, c'est sûr. Merci à vous trois, Catherine Larère, Pierre Chalère, Yannick Rumpala, vous avez fait des travaux dont les références sont précisées sur le site de notre émission. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse à la poésie, c'est le pourquoi du comment.
Comment Simone Veil explique-t-elle Homère ?
L'un des textes les plus importants de Simone Veil est bien sûr celui qu'elle a publié sous un pseudonyme et une forme d'anagramme de son propre nom au début de la Seconde Guerre mondiale en 1941 sous le nom d'Émile Novis et sous le titre « L'Iliade ». Ou le poème de la force. C'est un texte absolument fondamental pour toute la pensée de la philosophe qui mourra 2 ans plus tard, en 1943, en Angleterre. Dans ce texte, elle explique, à travers Homère, que, je cite la première phrase très connue, « Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de l'Iliade, c'est la force. » Qu'est-ce que c'est que la force? Dans la définition admirable de Simone Veil, je cite à nouveau, « C'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. C'est un tableau, dit-elle, que l'Iliade ne cesse de nous présenter. Oui, dans la guerre, dans la violence, les êtres humains qui sont d'abord, comme elle dit, des âmes, des subjectivités, des êtres qui attendent du bien, ces êtres qui ne cherchent qu'à s'exprimer sont réduits à des choses par la force de l'épée. Vous êtes un être souffrant, suppliant, mais avec une épée sur le cou, vous devenez une chose et votre âme risque d'éclater, d'être détruite dans le malheur. C'est aussi l'expérience de la nécessité du monde qui peut renvoyer à son contraire, à celle de l'amour, à celle des bains chauds, comme elle dit aussi, Andromaque attendant Hector, et malheureusement, il ne reviendra jamais, et les bains chauds sont exceptionnels dans l'histoire de l'humanité. Mais l'Iliade ou le poème de la force, on l'oublie souvent, le titre pourtant nous le dit très clairement, ce n'est pas un texte philosophique sur un texte philosophique, c'est un texte philosophique sur un texte poétique, le fait qu'il s'agisse d'un poème. Et pour Simone Veil, quelque chose d'aussi important que le thème du poème, qui est le poème de la force. Bien sûr, expliquer un poème, c'est aussi revenir au problème philosophique, peut-être singulier à l'étonnement humain, au problème de fond, au problème existentiel et humain qu'il exprime, et ici c'est la force. Mais il l'exprime justement comme poème, et elle explique que la force de Homère, c'est justement de trouver le moyen poétique d'exprimer la force comme telle dans sa brutalité extrême, de ne pas enjoliver l'expérience de la force, de la décrire brutalement, directement. Bien sûr, dit-elle, le poème d'Homère est aussi capable de ce qu'on appelle souvent la poésie, c'est-à-dire le lyrisme de l'amour. Je cite ce merveilleux passage à la page 37 de la Source grecque, l'édition par Camus, après la guerre, de ce texte magnifique. « Tout ce qui est absent de la guerre, tout ce que la guerre détruit ou menace, est enveloppé de poésie dans l'Iliade. » Poésie, c'est l'amour. C'est « tant que ce fut l'aurore et que le jour monta, des deux côtés les traits portaient. » Voilà, il y a aussi la naissance de la douce nourriture, qui est l'évocation de ce que les hommes désirent et aiment. Mais, ajoute-t-elle, les faits de guerre ne le sont jamais. Les faits de guerre ne sont pas traités par la poésie, mais par la brutalité même du poème. Le passage de la vie à la mort n'est voilé par aucune réticence, et toujours dans la traduction qu'elle donne elle-même et qui est admirable, voici 3 vers d'Homère sur la mort. « Alors sautèrent ses dents. Il vint des deux côtés du sang aux yeux, le sang que par les lèvres et les narines il rendait bouche ouverte, la mort de son noir nuage l'enveloppa. » La brutalité, dit-elle, la froide brutalité des faits de guerre n'est déguisée par rien. Voilà la force du poème. Le poème de la force, il exprime par un moyen poétique sidérant la sidération des hommes. C'est cette double surprise qui constitue la force du poème et qui l'obligation pour les philosophes de passer par eux.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Ludovic Auger. Merci aux équipes techniques d'ICI Azur et d'ICI Provence qui ont permis 2 duplex ce matin pour nos invités. Cette émission a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Feulpin, Chaïma Giboire, Armance Bourquin, Antoine Ravon et Nassim El-Kabli. Vous êtes sur France Culture, vive la curiosité!